Disons qu'il s'agit là d'une première approche où l'on privilégiera ce qu'une telle personnalité aiguë et naturellement perturbatrice, novatrice et charismatique, qui a signé une époque dans le monde de la psychanalyse, peut avoir de mythique à l'heure actuelle. Jacques Lacan est décédé en septembre 1981. De 1953, date du discours de Rome qui marque la première rupture officielle de Lacan à la fois avec l'idéologie médicale et la société psychanalytique de Paris, à 1980, son parcours sera émaillé de démêlés et de ruptures avec et dans les institutions. Il rompt au début des années 60 avec la Société française de psychanalyse dont il avait été cofondateur pour fonder sa propre école, l'école freudienne de Paris, qu'il dissoudra peu avant sa mort. En même temps, son séminaire, d'abord à Sainte-Anne pour un public restreint de psychiatres et psychanalystes, ensuite à l'école normale, puis à la faculté de droit de la rue Saint-Jacques, sera pour cet homme tenant d'un enseignement oral et d'une science du langage, selon son expression, le lieu d'une élaboration théorique toujours ouverte, ainsi que par métaphore, celui de la mise en scène spectaculaire d'une parole qui se cherche.
Toute question ne se fonde jamais que sur une réponse. C'est certain. On ne se pose de questions que...
Bonjour.
Là où on a déjà la réponse.
Jacques-Marie Émile Lacan est né le 13 avril 1901 dans une famille catholique pratiquante de la moyenne bourgeoisie parisienne. Son père, d'origine auvergnate, était représentant de commerce pour des maisons d'huile et de savon et peu porté sur les questions de l'esprit. Sa mère était éprise de culture chrétienne et de mysticisme. Dès son adolescence, Jacques Lacan songe à s'orienter vers la médecine et s'intéresse à la philosophie, intérêt suivi d'une rupture avec la foi, qu'il signera quand il sera engagé dans la voie médicale et publiera ses premiers articles en 1925, en abandonnant le mari accolé à son prénom. Jacques Lacan, médecin et psychiatre au regard révolutionnaire, lié aux surréalistes et aux artistes, fera sa véritable entrée sur la scène psychiatrique et culturelle en 1932 avec sa thèse de la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité. Personnage de plus en plus baroque au cours du temps, cette scène, il l'occupera jusqu'à sa mort en 1981. Il se voulait l'artisan d'une nouvelle introduction du freudisme en France et son continuateur. Il finira par ce qu'on lise dans un cercle important, l'œuvre freudienne à travers la légitimation lacanienne.
Je raconte volontiers une anecdote, justement au cours de ce voyage en Suède.
Serge Leclerc.
On avait fait un très long parcours, moi j'étais le chauffeur attitré, enfin j'avais comme ça toute une série de fonctions. Il y avait Françoise Dolto, il y avait François Perrier, il y avait Judith. Chacun était occupé par son, comment dire aujourd'hui, par son trip particulier. Françoise était tout à fait lyrique, Judith extrêmement inquiète de l'état de son père, elle était très jeune à ce moment-là, et François Perrier très occupé, très soucieuse, ça n'est pas mieux dire, parce que vraiment ça fait complètement partie de François Perrier, de trouver quand même un petit relais où on trouve un débit d'alcool en Suède, pour avoir son petit whisky du soir, ce qui était bien normal. Donc chacun était complètement absorbé par son trip.
Et vous, et, par quoi, au fait et vous?
Moi, pour conduire toute cette petite troupe par la voiture et d'arriver à rentrer à Stockholm avant 2h du matin.
Et Lacan était
Et Lacan absorbé. Était absent. C'est-à-dire absent, c'est-à-dire complètement pris dans sans doute la reconstruction de l'entretien qu'il avait eu ou qu'il aurait voulu avoir, ou essayant de savoir pourquoi on lui voulait tant de mal. Donc extrêmement silencieux. Nous sommes donc dans un endroit effectivement très très beau, vers la fin du jour, à cette époque-là, ce qui est quand même vers 8-9 heures du soir, à Stockholm, et Françoise essaye à tout prix de sortir Lacan de sa tristesse, si on peut dire, ou de sa préoccupation. Parce que l'endroit était absolument superbe. Un lac, des cygnes, un château presque médiéval qui se reflétait dans le lac. Enfin, c'était vraiment très très beau. Alors Françoise déploie tout son arsenal en disant, enfin Jacques, pas un mot, rien, il était là, on continuait. Rien n'y faisait, il ne disait pas un mot. Mais ça a duré assez longtemps. Et puis, on reprend la voiture, on sort de l'agglomération. Et à ce moment-là, comme chez nous, on voit le nom de l'agglomération barré en sortant. Et alors là, sursaut, ça faisait une heure et demie qu'on n'avait pas entendu le son de sa voix, il dit, mais c'est Gripsholm. Gripsholm étant un endroit historique de Suède avec son château. Alors, à partir du moment où il voit Gripsholm, il sort complètement, comme ça que ça fonctionnait. Il a fallu à 9h30 du soir aller tirer la sonnette du château pour essayer de convaincre le gardien de nous ouvrir pour visiter, parce que Lacan voulait absolument visiter quand il voyait quelque chose comme ça. Il le fallait absolument. Et lui, à bout d'argument, lui dit « Mais je suis Lacan », dit-il au gardien, au concierge du château. Voilà. Mais tout ça avait fonctionné sur un mot. Alors, à partir de ce mot, hop.
Un mot barré, quand même.
Un mot barré, mais qui, évoquait toute une histoire. Là, il sort immédiatement son truc, c'est-à-dire que, quels que soient ses soucis, il est prêt à partir sur... il lui fallait absolument voir, à ce moment-là, le lieu de cette histoire qu'il connaissait, c'est-à-dire...
Quand je suis venue la première fois, j'ai commencé justement, je voulais
Catherine Millon
lui expliquer ce qui n'allait pas. J'avais commencé un discours là-dessus. Il m'a arrêté tout de suite pour me demander d'où je tenais la tête que j'avais, qu'est-ce que c'était que la petite cicatrice que j'avais sur la joue. Des questions tout à fait inattendues qui m'avaient effectivement déconcertée. Et ça, ça m'a semblé... être assez caractéristique de sa technique, c'était un peu comme au judo, c'est-à-dire que là où je m'attendais à devoir effectivement énoncer ce pourquoi je venais, tout d'un coup c'était court-circuité par ses interventions et par des questions qui ne portaient justement pas du tout dans l'ordre des symptômes. Lacan, il avait une façon bien à lui d'accrocher le transfert, comme on dit.
Par exemple, par rapport à la petite cicatrice sur la joue et...
Je crois que c'était autre chose. C'était, je crois que dans les entretiens préliminaires, souvent Lacan mettait en jeu la présence corporelle, la sienne propre et aussi celle de la personne qui venait lui demander une analyse. Il avait une façon de vous accueillir aussi qui était extrêmement chaleureuse et qui... la première fois, ça m'avait d'ailleurs même déconcerté. Je m'attendais pas à ça, surtout que j'avais déjà vu quelques analystes qui étaient plutôt un peu guindés, je dirais. Et ça, Lacan évidemment tranchait.
Qu'est-ce qu'il vous a dit
à ce propos? C'était dans le genre d'arrêt. Il arrivait dans la salle d'attente où j'étais, en s'approchant vers moi et me disant :« C'est vous, Catherine Millot, mon petit. Tu nous vois suave. » Et c'était donc la dimension déconcertante de la chose, déjà une façon de ménager précisément l'ouverture aussi.
D'une façon personnelle, j'ai déjà dit dans
Jean Houry texte,
Lacan, on peut dire que la première rencontre c'est au mois de mai 47, même, je crois. Donc j'ai retenu la date. C'était dans une série de conférences qui avaient été organisées à la rue d'Ulm par Georges Gusdorf. Déjà à la rue d'Ulm. C'était organisé à la suite, justement, des journées de Bonneval de 46, où il y avait eu Lacan, Bonafé, etc. La causalité psychique. Bon. Et alors moi, je connaissais pas du tout... Je venais là parce que je suivais des conférences d'internat à Djuriaguera, qui était à Sainte-Anne à cette époque. Alors Djuriaguera, puis Angelergue, et puis d'autres types comme ça. Et puis j'avais été écouté. Alors c'était donc une sorte de panorama comme ça, très vivant, parce que chaque conférence, je me souviens plus, c'était tous les 15 jours, il y avait un type qui venait parler. Alors il y a depuis Minkowski, Follin, Bonafé, Toscaïès, que j'avais jamais rencontré non plus, et puis beaucoup d'autres. Hein. Et puis alors est arrivée donc une soirée, Lacan, au mois de mai 47. Alors à ce moment-là, moi j'hésitais pour faire la psychiatrie ou autre chose. Hein. J'étais déjà en médecine depuis longtemps. Et puis alors, ce qu'il a dit, la façon de le dire, ça m'a paru d'une clarté, d'une netteté, surtout d'une rigueur extraordinaire, hein, qui m'a impressionné, quoi, faut bien le dire, et qui m'a séduit. Il y a une sorte de séduction, enfin, mais non pas une séduction du personnage, hein, mais une séduction, disons, de la rigueur intellectuelle. La façon de présenter les choses, je crois que c'est sur l'identification, il me semble, un truc comme ça.
Il avait déjà ce style qu'on retrouve ensuite dans ses séminaires, dans cette façon de s'exprimer,
ce
rythme.
Il n'y avait peut-être pas ce rythme comme on a connu après. Hein. C'était quand même en 47. Hein,
c'est le jeune Lacan.
C'était le jeune Lacan, hein, il avait 46 ans, hein, en 47. Hein.
Enfin, je vois que j'ai un auditoire. La communication, voilà des gens sympathiques. La communication, ça fait rire. Eh bien, c'est pour moi un très vif encouragement. Enfin, si vous en êtes déjà là. On va pouvoir avancer un peu.
Madeleine Chapsal.
Il adorait écrire. D'abord, il avait une très belle écriture, pas toujours très lisible. C'était l'époque des pneumatiques. Et il aimait, comme ça, envoyer des pneus un peu partout. Je crois qu'il avait très envie, après de lourdes journées de travail, de pouvoir recevoir quelqu'un de tout à fait un autre monde avec lequel il bavarderait, une jeune femme, et éventuellement aller dîner ou faire quelques projets de distraction ou se faire raconter des petites histoires. Alors je faisais partie de ces personnes-là qu'il sollicitait de temps en temps.
Là, vous avez une lettre du 28 décembre 1955. C'est une des premières que vous avez envoyée ?
C'est une des premières et... Il m'appelle gentil ami, c'est comme ça que ça commence. Et après quelques remarques sur un futur rendez-vous, tout à coup, il se met à me tutoyer et il me dit quelque chose de tout à fait étonnant que je vais vous lire tel quel et que je ne peux pas tout à fait interpréter, peut-être le pourrez-vous. Qu'importe le nombre de tes amants si nul d'entre eux ne te donne l'univers ? Et tous les hommes ne seront pas moins vains à te faire reconnaître ton désir si tu ne l'obtiens pas d'un seul. Car ce n'est ni d'un ni de tous que tu l'entendras, mais d'aucun. Si aucun ne peut te le dire par la voix de tous les couples, à commencer par ceux que tu peux former avec lui. Et je t'avertis là qu'il en faudrait plus d'un, car ce n'est jamais qu'en nous-mêmes que le couple obstrue l'univers. Vous voyez, ça n'était pas rien, c'était non. Précieux, c'était.
Oui, mais vous lui aviez raconté votre vie sentimentale ou un amour douloureux que vous étiez en train de vivre.
Peut-être, vous avez raison. Je lui avais peut-être dit que, en fait, j'étais assez coquette à l'époque et je crois que plusieurs hommes tournaient autour de moi et moi autour d'eux. Et la lettre se termine par sachez que je vous voudrai le jour de l'an. À tous les moyens de parvenir à vos fins.
Commencez en disant, au moins une fois,
Jean-Pierre Faye.
Lacan, dit-on, aurait dit. Et ça, c'était le séminaire le plus crucial, à mes yeux, c'est-à-dire encore sur l'amour, qui s'est publié avec la Sainte Thérèse du Bernin. Bernini.
En couverture.
Mais la dimension extatique de ce séminaire était évidemment tout à fait insolite et faisait frémir l'auditoire avant même la première séance. Il y avait déjà l'avant-dire de l'Aurédi et du Diton. Mais c'est un peu comme ça que moi-même j'avais rapport à Lacan. C'est-à-dire sans être justement dans l'auditoire, mais plutôt d'être intéressé et très concerné par la vibration qui émanait de ce pluriel futur qui allait jaillir de cet auditoire, dont je pressentais déjà qu'il était parcouru d'un certain nombre de veines, d'artères, de chemins, de rift, enfin de cassures multiples, mais en même temps de courants, de circulation, d'une sorte de vie artérielle. Et avec lui-même, j'avais un rapport personnel tout à fait libre et intermittent qui faisait que nous n'avions nul ombrage. Chose qui finalement s'est faite relativement rare. Parce qu'une personnalité comme celle-là, évidemment marqué de l'ombre. Et moi, ce qui m'intéresse alors le plus chez lui, c'est justement son avancée vers une découverte tout à fait nouvelle, qui reprenait un vieux mot des philosophes, tout à fait hors du discours freudien, sauf exception, sauf une fois. Il y a, je crois, une seule fois le mot « sujet » chez Lacan, chez Freud, et chez Lacan, en revanche, il est là tout le temps, mais il est corné d'ombre. Et ce sujet corné d'ombre, c'est-à-dire qui a ce grand revers d'inconscient, comme les cartes de visite qu'on cornait du temps de Proust, et qu'il déposait chez un de Noailles, etc. Ce sujet corné, c'est vraiment Lacan. Et lui-même était cela. Une fois, il me téléphone au sujet d'un article qui avait paru dans la revue que j'animais, qui s'appelait Change. Il me dit, voilà, cet article m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, je crois que Sylvie souhaiterait que vous veniez dîner. Alors, je viens. Sylvia Bataille, comme on l'appelait couramment dans la famille. Mais donc je viens dîner.
Et l'article portait sur quoi ?
L'article s'appelait l'anti-Göring. Ah. Oui, parce que je parlais du sort dangereux de la psychanalyse à l'époque du Troisième Reich, où elle a été soumise à la Reichsführung d'un certain docteur Göring, qui était Reichsführer de psychothérapie.
Et qui faisait ses psychothérapies en uniforme.
Eh bien, c'est pas sûr, il avait une barbe, et on l'appelait papy, parce qu'il avait l'air bon enfant. Mais quand il assistait aux séances de la Société de psychanalyse au premier rang, en prenant des notes, surtout quand il y avait le mot Oedipe, il était spécialement nerveux, paraît-il, à ce moment-là. Évidemment, il y avait alors un frémissement d'un autre ordre, une très grande angoisse. Et Papy, il y a sa tête dans un livre depuis... Moi, je crois que je suis un des premiers à avoir découvert l'existence de Papy, de Göring, du bon docteur, Herr Professor Doktor Reichsführer Göring.
Loin du bon docteur.
Voilà, le bon docteur Göring, qui écrivait des articles dans les années 33 pour donner les résultats de ses psychothérapies. Et quand c'était des patients juifs, il disait, oui, l'analyse s'est interrompue. Il n'y a pas eu de suite. Bon, alors voilà, c'est tout. Pour les résultats, j'ai des résultats. Pour un tel, là, il n'y a pas de suite. Je ne sais pas, ça s'est interrompu. Et alors, ça l'avait intéressé. Et du coup, il me téléphonait, il m'avait dit longuement des choses, m'avait donné des hypothèses, m'avait dit qu'il fallait demander à Löwenstein, qui autrefois me disait Sylvia, l'avait analysé. Et que par conséquent, si j'allais à New York, je trouverais peut-être dans les archives des choses sur les rapports mystérieux entre Goebbels et la psychanalyse. Pas Göring, le maréchal, bien sûr, mais Goebbels, lui, avait peut-être frôlé tangentiellement une certaine inquiétude du côté de la psychanalyse, puis finalement, ils avaient décidé qu'ils allaient rejeter tout ça. Et qu'il y aurait peut-être là-dessus des documents étonnants. Donc que je vienne dîner. Mais le merveilleux rendez-vous, c'est celui où lui-même donc téléphone. C'est toujours à propos du docteur Göring.
Donc ça m'intéresse.
Ah, ça, cette histoire-là, le prenait très au vif. Le rapport de l'analyse au Troisième Reich, ça, c'était avec Jung qui a accepté d'être co-président à côté du professeur docteur Reichsführer Göring pendant quelques années. 2 ans après il s'en va. Tout ça donc l'intriguait énormément. Il voulait qu'on fasse ensemble quelque chose. Mais il m'appelle au téléphone et il me dit, écoutez, voilà, je vous appelle ce soir, demain soir, après-demain soir, je ne sais plus, mercredi soir, à 10h. Au téléphone. Bon, alors je dis très bien. Et malheureusement, c'était le jour d'un grand événement de foule qui est maintenant peut-être oublié, c'était un meeting géant de l'Union de la Gauche. On a peine à penser que ça pouvait exister. Alors l'Union de la Gauche rassemblait des millions de gens au Palais des Sports. Et il y avait les 3 grands héros de l'époque, les 3 partis de l'Union de la Gauche, vous voyez, la figure. Et j'entre là, au milieu de cette foule immense, et je me retrouve poussé par le vent de l'histoire, tout au fond. Et tout à coup, à 9h, je me dis, mais c'est affreux. Voilà que ça commence. Et comment sortir ? Maintenant, je vais en avoir pour des heures. Alors, je commence ma traversée, laborieuse. Et puis, je m'avance vers la sortie. Ça me prend 3 bons quarts d'heure. Là, je me précipite. Je retrouve les moyens que j'avais pris pour venir. Je ne sais plus lesquels, d'ailleurs. J'arrive dans mon escalier et j'entends sonner le téléphone à 10h juste. Je me précipite sur ma clé. J'ouvre la porte. C'était son coup de téléphone. Et là, il me dit, j'arrive à 11h30 chez vous avec mon chauffeur. Alors, effectivement, donc j'attends jusqu'à 11h30. Et à 11h30, il vient avec une très belle jeune fille, aux cheveux blonds, je me souviens, à la longue chevelure. Et il s'assied. Et nous commençons de nouveau à explorer la question fatale. Là, il m'a révélé cette anecdote étonnante, c'est que Goebbels serait venu avec une équipe, quelques hommes proches de lui. Pas des hommes de main, quand même, mais il devait être protégé. Protection rapprochée pour le ministre des cultes et de la culture, de son titre. Kultusminister und Aufklärungsminister.
C'est encore plus beau.
Ministre de la Lumière. Il était venu à cette clinique de psychiatre, psychanalyste, et il est resté quelques jours. Il avait envie de scruter les problèmes de l'âme. Et puis tout à coup, il est parti. Dans un moment, comme ça, brusque, une tempête, on repart. C'est comme la menée du roi Arthur dans les légendes populaires en France. Pas dans les beaux récits, mais dans le roi Arthur passe dans la tempête avec le vent, avec les arlequins. Ça. Mais ça m'intéressait de suivre ce fil à travers le méandre de la mémoire de Lacan.
Carnet de nuit, donc note, je lis. Le champagne rosé avec Lacan. Il sortait de ses fous, on allait en face de chez lui à la calèche. Le champagne rosé avec Lacan. Il sortait de ses fous. Alors le champagne, il sortait de ses fous.
Ben oui, parce que
Philippe
voilà,
Salaire.
Ça m'est arrivé souvent d'aller le chercher vers 7h30, 8h moins le quart. Et donc, il a eu sa journée harassante de fou. C'est comme ça écrit par dérision. Il y a eu sa ration de névrosé ou de parapsychotique pendant toute la journée. Et donc, il était content, je pense, de temps en temps, d'aller boire comme ça, puis de bavarder un petit peu. Puis rentrer un peu de tout. On s'est quand même assez beaucoup vu. Pour vous prendre un seul exemple, Pour aller vite, les discussions les plus tenues ont eu lieu sur Joyce dans les années 70-75, par l'avant, au moment où il préparait son séminaire sur Joyce. Je trouve que je connaissais un petit peu ça. Et je revendique, au fond, le fait de l'avoir amené à s'intéresser à Joyce. Lacan part de loin, vous savez, c'est André Gide vu par Jean Delay, c'est-à-dire que c'est vraiment tout à fait le bas de l'échelle, si on peut dire. Donc arrivé jusqu'à Joyce, c'est un homme de son âge qui était encore en progrès sur la fin, c'est pas qu'il y ait d'ailleurs compris grand-chose, mais enfin il a tenu à se mesurer à quelque chose qui tenait le coup dans un ordre qui l'intéressait beaucoup, c'est-à-dire une certaine distorsion du langage truffé, comme il l'a dit si bien, par quelque chose d'autre. C'est le séminaire encore, vous trouvez des traces de ça, puis ensuite il y a le séminaire sur Joyce. Bon, alors ça nous faisait des petites discussions, je lui fais rencontrer des Joyciens, érudits, on dînait ensemble, on parlait un peu autour de ça, puis c'est aussi l'époque où je voulais l'amener en Chine.
Aoudaïe doudé, ma cher Jartelman. Excuse-moi, mon pote, tu jaspiques le donsk? Tu mastifales grenier-gien?
Non.
Toi, naragourlé anglish?
Non.
Phonème saxout?
Non.
Alors, il n'y a pas de doute.
J'ai rencontré en 65, je venais de publier un petit livre qui s'appelle Drame, qui semble-t-il l'avait intéressé. Peut-être pas le livre lui-même, mais une interview que j'avais dû faire, où il croyait que j'étais familiarisé avec lui, alors que c'était pas du tout le cas. Et il a demandé à déjeuner avec moi, on a déjeuné. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il me croyait tellement familiarisé, alors que je venais tout à fait d'ailleurs. Il m'a dit, la semaine prochaine, j'étais un peu connu déjà, hein. Souci tactique de Lacan, toujours, occupation du terrain et complicité à trouver dans les superstructures. Éventuellement chez les écrivains, chez les gens influents, oui, des appuis pour la propagation de la doctrine, n'est-ce pas? Et alors il me dit, vous venez parler la semaine prochaine à mon séminaire. Je lui dis, mais non, je ne veux pas parler à votre séminaire.
Vous parliez déjà comme ça à l'époque, vous?
Bien sûr, j'ai toujours eu mon plutôt franc-parler, figurez-vous, avec tout le monde.
Non, pas dans ce sens-là, de ce ton comme ça un petit peu. Il ne connaissait pas très bien Joyce. Oui, il m'a dit, venez. J'ai dit, ben non.
Ah oui, oui. Non, mais c'est même ça, je crois qu'il a accroché dans ma personnalité, si j'en ai une. Et il y a des choses marrantes avec Lacan. C'est quelqu'un de drôle, très drôle, et dont la présence verbale est très importante. Donc je crois qu'il faut la souligner, parce qu'il a eu des embarras quand même très notables avec l'écrit. Hein, je crois qu'on peut analyser Lacan dans cette disjonction relative entre l'écrit et la parole. Ça lui a causé pas mal de soucis, et probablement la question de sa transmission est-elle la clé des difficultés de sa transmission est à trouver là-dedans. Mais quoi qu'il en soit, la deuxième fois qu'on s'est vu, il m'a dit, alors, c'est quoi votre thèse ?
Alors, ce qu'il y a de particulier, moi j'étais donc en 53, je venais de
vous installer.
M'installer à la Borde, hein, parce qu'avant j'étais dans la même région, mais à Sommery. Je me suis installé à la Borde en avril, et le temps de débrouiller les choses, c'est pour ça que je suis allé aussitôt. Hein. Mais alors, il se trouve que pendant quelques années, hein, de la Borde même, j'étais le seul à y aller. Et puis, il y a eu ce que j'ai appelé en 55, à partir de 55, l'invasion. L'invasion de la Borde par une quantité de types, certainement où Félix Guattari joue un rôle là-dedans, qui lui est venu à la Borde en 55, donc 2 ans après le début. Mais il y avait des futurs ethnologues, des philosophes, des psychologues, enfin des quantités de gens qui venaient là en stage travailler. Et alors, eux-mêmes, moi j'étais très discret, disons, dans mon aventure avec Lacan, hein, mais alors ça s'est su, et ils ont, d'un seul coup, je me souviens, en une année, il y en a eu une quinzaine qui ont été chez Lacan. Alors, moi, je me disais ce que j'ai appelé une hémorragie. C'était une hémorragie À tout point de vue, hein. Ouais. Pour eux, une hémorragie financière.
Et pour vous, non?
Bah, pour moi, pas grand-chose. Moi, je continue même mon petit bonhomme de chemin. Hein. Mais j'espérais que Lacan ne les prendrait pas. Tous.
Il les a tous pris?
Mais il les a tous pris.
Il y avait une boulimie?
Bah, il y avait une sorte de boulimie. Peut-être que le terrain l'intéressait d'avoir tout ça. Hein.
J'ai vu Jean Houry qui a fait une analyse avec Lacan, comme vous. Et je crois qu'il a commencé à peu près comme vous, juste après la guerre. Je crois que c'était en 48 et elle a duré...
49-53.
49-53. Oui. Bon, en tout cas, lui, pratiquement, il y est allé pendant plus de 20 ans. Il m'a dit une chose qui m'a vraiment intriguée. Il m'a dit qu'il avait eu des conflits avec Lacan au cours de cette analyse. Je ne sais pas exactement quel type de conflit, mais je pense qu'à l'intérieur d'une analyse, on peut effectivement avoir des conflits avec la personne qui vous prend en analyse. Et il était venu chez vous, il était venu vous voir pour vous raconter ces conflits. Et vous lui avez dit, Lacan est quelqu'un de fragile, il faut le protéger.
Oui, c'est tout au moins l'expérience que moi j'en avais faite.
De sa fragilité?
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire alors?
Mais je ne pense pas lui avoir dit il faut le protéger. Enfin, je pense que c'est une interprétation qu'Houry a dû faire de mes paroles. Mais dans l'entretien, dans ce qu'on s'est dit, j'ai dû faire référence à ce que j'avais pu moi sentir de Lacan. Je suis à peu près sûr. Parce qu'on ne peut jamais l'être tout à fait, de n'avoir jamais dit il faut, parce que ce n'est pas du tout dans ma façon de parler.
Donc il l'a interprété comme ça.
Oui.
Mais il est fragile, je trouve que c'est intéressant. Puis bon, en plus c'est très joli, c'est très beau, comme appréhension du personnage Lacan. Quelqu'un de fragile, on a tout dit de lui et on continue à le faire, peut-être un peu moins maintenant, mais jamais on a dit qu'il était fragile.
Fragile pour ses enjeux, enfin fragile, sensible pour ses enjeux essentiels. Et comme vers les années enfin, qui ont suivi 53, ces enjeux devenaient tout à fait pris dans des conflits institutionnels et qu'il y était donc entièrement. Il avait cette sensibilité extrême à tout ce qui questionnait. Et comme vous savez d'autre part à quel point il était tout à fait ouvert aux questionnements les plus radicaux, ça, c'est quelque chose qui le travaillait plus qu'on ne pouvait penser, parce qu'on projetait toujours sur lui quelque chose de la figure d'un maître quand même assuré, alors que toute question devenait pour lui, et surtout une fois qu'elles étaient prises dans les enjeux institutionnels, je dirais presque une question vitale. Alors c'est en ce sens-là que je l'entendais. Et que je l'entends toujours, ça.
C'était donc...
Pour donner... Vous me demandez comme ça, d'évoquer quand même un petit peu ce qui était... je ne sais pas si ça vous a été dit, mais pour être sur un tout autre registre, la qualité de sa poignée de main, si l'on peut dire, c'est-à-dire de son toucher en général, avait quelque chose d'une extrême finesse, et là aussi, on ne peut pas dire d'une fragilité, mais d'une perméabilité ou d'une sensibilité tout à fait surprenante, je veux dire, à une simple poignée de main. Ça se percevait. C'était tout le contraire de... de quelqu'un, parce qu'on a beaucoup pu dire qu'il était un petit peu retranché dans son narcissisme, ce qui donne toujours l'idée d'une certaine carapace.
Froideur, peut-être.
Froideur ou narcissisme, enfin, qui. Oui, enfin, dans le. Oui. Dans, je veux dire, c'est une chose qui. Un terme qui a beaucoup circulé à son propos, ne serait-ce qu'à propos de son apparence vestimentaire. Mais. Et narcissisme va souvent de pair, comme ça, avec une représentation qu'on se fait d'une certaine carapace. Et je ne pense pas qu'il en a fait.
Kostas Axelos, vous avez servi d'interprète, je crois que c'était en 1955, dans la rencontre entre Martin Heidegger et Jacques Lacan.
En effet, au mois d'août 1955, avant le colloque de Sérisy, qui était consacré à la pensée de Heidegger, Jacques Lacan et sa femme, Sylvia Bataille, avaient invité Heidegger et sa femme, moi et quelques autres amis chez lui à Guitrancourt pendant quelques jours. Je traduisais le français lacanien de Lacan à Heidegger et l'allemand heideggerien de Heidegger à Lacan, parce que Lacan, bien que lisant et comprenant l'allemand, ne pouvait pas suivre une discussion. D'ailleurs, les discussions furent tout sauf philosophiques. C'était un exemple frappant à quel point le dialogue entre philosophie, j'entends ici philosophie au sens de pensée centrale, et une théorie particulière et une discipline particulière, comme la psychanalyse, est théoriquement et pratiquement impossible. Lacan avait une connaissance intuitive, partiale et partielle de Heidegger, et Heidegger ne s'intéressait pas du tout à la psychanalyse. Il ne s'est d'ailleurs jamais intéressé, et on pourrait même lui tenir ce reproche qu'il n'a jamais dit quelque chose de sensé sur l'analyse, fût-ce critiquement.
Vous n'avez pas dit ce qu'ils se sont échangés exactement pendant ces
rencontres ? Rien que des paroles quotidiennes au fil des jours.
C'est-à-dire ?
Sur le temps qu'il fait, la nourriture, le paysage.
C'est tout ?
C'est tout.
C'est tout. Et cet épisode-là où Lacan conduisait très 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 vite, la voiture où se trouvait...
J'aimerais plutôt que parler de choses anecdotiques, dire ce que je...
C'est intéressant quelqu'un... quand même.
Oui, on a fait une voiture...
Conduire Heidegger à toute vitesse.
On a fait une promenade en voiture où Lacan conduisait très vite pour aller à Chartres et Heidegger avait un peu peur dans la voiture de Lacan. Mais je crois que le problème déborde même Heidegger et Lacan, qui est celui de la pensée philosophique et de la psychanalyse. Lacan fait certes preuve d'une certaine génialité sauvage, je parle de génialité sauvage comme on parle de psychanalyse sauvage, mais en même temps d'une très très grande suffisance parisienne, d'un assez grand narcissisme, d'un certain alexandrinisme.
C'est le philosophe qui parle.
C'est celui qui interroge les écrits de Lacan sur le plan de la pensée. Je me demande si je peux souscrire totalement au titre d'un livre de François Roustan sur Lacan que nous avons édité dans la collection Arguments aux éditions de Minuit, dont le titre est Lacan et le sous-titre de l'équivoque à l'impasse. Il y a du vrai là-dedans, ça n'épuise pas le problème et la question reste ouverte.
Le minimum qu'on puisse dire, c'est que tout ce qui s'édifie entre ces animaux dits humains est construit, fabriqué, fondé sur le langage. Ça ne veut pas dire que les autres animaux sociaux, enfin, vous en avez bien sûr entendu parler, les, je sais pas, les petites fourmis, les abeilles et quelques autres exemples distingués sur lesquels, enfin, nous sommes penchés, comme on dit. Parce que nous passons notre temps à nous pencher, nous autres. Être langagiers. Ont quelque chose qui... On ne sait pas quoi, d'ailleurs. Hein. On en est réduit à dire que c'est l'instinct. Quelque chose qui les tient ensemble.
En fait, pour moi, la pensée de Jacques Lacan est fondamentale philosophiquement. Je pense qu'elle est philosophiquement sans doute la plus importante de ce temps, avec celle de Gilles Deleuze en contrepartie qui est l'opposé, mais leur opposition est une chose très ténue, très angulaire. Je veux dire, c'est pas face à face brutal, c'est une divergence sur le fil du rasoir, enfin de la lame aiguë. Bon, mais alors
l'un est un Alice et l'autre ne l'est pas.
Bien sûr, mais je crois que il reste légitime de considérer cet analyste saugrenu, singulier, comme un penseur extraordinaire. Parce qu'au niveau de cette exploration du sujet, de la façon dont il entre à travers ses séminaires, les séminaires publiés sont des textes les plus prodigieux que l'on trouve actuellement sur le lieu de la pensée. Et dans les écrits, il y a une sorte de compact, de condensé de tout cela, mais les séminaires, les premiers surtout, donnent le sentiment du chemin, et d'un chemin qui n'est pas celui qui mène nulle part, contrairement à d'autres chemins. Et il ne se perd pas dans la broussaille, mais il suit une lisière, justement une ligne de lisière au bord de cette forêt, et sans perdre de vue le besoin qu'il y a de contourner la forêt, qui bien entendu n'a pas de tour.
À chaque personne.
Exactement. Lacan, il avait effectivement, il donnait le sentiment à chacun d'avoir un rapport que je ne sais pas si on peut le qualifier de privilégié, parce que je ne pense pas que ce soit le terme, mais en tout cas un rapport plutôt qu'un rapport particulier, un rapport au particulier de chacun. Et je dois dire que c'est ça qui a fait le prix de cette rencontre avec Lacan comme analyste, c'est l'impression qu'avec lui, il était possible que le particulier, ce qu'on était ou ce qu'on avait de particulier, pouvait là trouver l'espace pour se déployer. Et ce n'est pas le courant de l'existence. Dans le courant de l'existence, ce particulier-là, on a plutôt, on est plutôt porté à des contorsions pour, d'une certaine façon, l'escamoter, pour, en quelque sorte, se conformer comme ça, à l'attente de l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui était balayé dans la rencontre avec Lacan. À propos de cet accueil qu'il faisait à la particularité de chacun, qui, en quelque sorte, vous dispensait de ce que j'ai appelé ces contorsions, d'être obligé, en quelque sorte, de faire passer à l'as ce qui pouvait vous être propre. Et ça, effectivement, la rencontre avec Lacan, ça ouvrait à la dimension que cette particularité-là pouvait avoir droit de cité, pouvait être accueillie. Et que c'était ça l'extrême soulagement qu'on pouvait éprouver
dans les débuts d'une analyse avec lui, en tout cas que moi j'ai éprouvé, l'impression de pouvoir déployer quelque chose et une impression de liberté que j'ai eue d'emblée, liberté d'expression qui était unique. Et ça, c'était lié, bien sûr, au principe de l'analyse elle-même, c'est-à-dire qu'il y a l'association libre, effectivement, on est sommé, mais ce n'était pas suffisant. Il y avait aussi la personnalité de Lacan, sa propre liberté à lui, qui, en quelque sorte, était... qui vous y autorisait, sa liberté, c'est-à-dire aussi bien son côté déconcertant, inattendu, son absence de conformisme qui n'était pas une volonté de non-conformisme, enfin un parti pris de non-conformisme, qui lui était, je dirais, naturel. Et de voir effectivement quelqu'un qui avait toute sa marge de manœuvre, enfin toute sa latitude, c'était quelque chose qui avait en soi un effet absolument libérateur. Alors cette impression de liberté, c'est pas commun. Il me prend de regretter, d'avoir la nostalgie de ce qu'il pouvait présentifier justement de ce côté-là. Bien que par ailleurs, il n'aimait pas ce terme de liberté. Parce que, effectivement, quand on connaît tous les déterminismes que quelqu'un subit de par son assujettissement à l'inconscient, la liberté, c'est à prendre avec des pincettes un peu, mais il n'empêche que quand même ça existe. Enfin, ça existe. Il y a la marge par rapport. Et je pense que d'ailleurs c'est surtout par rapport à toute la dimension des touffoirs imaginaires, enfin qui résulte du rapport à son semblable, c'est-à-dire à ce pouce au conformisme qu'est le rapport à l'autre comme semblable. Au fond, Lacan, ce qu'il avait de libérateur, c'est que ça n'était pas un semblable. Il n'était semblable de personne, il n'était même pas semblable à lui-même. C'était ça qui faisait cet effet de respiration, hein, de ne pas avoir affaire à un semblable. Et en revanche, c'était quelqu'un qui pouvait donner la dimension de ce que lui appelait le prochain, précisément par opposition au semblable. C'est-à-dire que le prochain, c'est ce rapport à l'autre dans justement la particularité dans sa particularité irréductible, qui est celle de son désir et aussi bien de sa jouissance, de sa méchanceté, de quelque chose qui était accueilli, précisément. Et lui-même, en quelque sorte, c'est une façon, ce prochain, dans son altérité radicale, il le présentifiait.
Un autre jour, en 56, il m'écrit « Selon toute vraisemblance, c'est un tête-à-tête qui nous est promis ce soir. » Ce qui n'est pas mal au point où nous en sommes du dialogue. Mais que voulez-vous de moi, mon dernier soupir ? Alors, je veux vous dire que j'étais restée pantoise, personne ne m'écrivait comme ça.
Mais vous lui répondiez ?
De temps à autre, mais beaucoup plus brièvement, je lui téléphonais plutôt. Alors là aussi, c'est très joli cette phrase-là. Quelque contentement laissant place à l'envie de vous voir, d'entendre votre voix. J'avais dû lui téléphoner. Que j'aime assez pour préférer ne pas l'entendre au téléphone. Comment faire ? Un verre chez moi ce soir à 8h. Alors je me souviens que j'arrivais en fin de séance, Gloria me faisait entrer, j'attendais un peu dans la bibliothèque ou dans la salle d'attente, et je me disais, ça y est, s'il y a d'autres personnes, elles vont croire que je suis une malade. Pour moi, être chez Lacan, c'était être une malade. Alors j'attendais avec impatience qu'ils viennent me chercher, en me disant « Ah, vous êtes là, ma chère !» et qui prouve par quelques mots que j'étais son invitée, mais pas sa malade.
Il vous traitait quand même de façon privilégiée.
Sans doute, mais
vous faisiez partie du spectacle, maintenant que vous avez un peu de distance par rapport au jeu qui jouait, là, ce jeu dont on a parlé tout à l'heure.
Probablement. J'ai vu dans des livres comme celui de Godin qu'il aimait assez partir avec une jolie jeune femme au bras le soir. Et là, il me dit « Je crois que je n'ai pas fait aujourd'hui un trop mauvais séminaire. Cela prouve qu'il m'est possible de me coucher à 4h30 du matin et pourtant à 9h30. » Alors, non, je ne vais pas vous le lire, je n'ai pas pu déchiffrer le reste de la phrase.
Si, regardez, et pourtant à 9h30, je n'avais encore rien écrit.
Le 18 janvier 1956, il m'écrit ce qu'il appelle lui-même un octin, une sorte de poème qu'il a mis d'ailleurs en forme comme un calligramme d'Apollinaire. Visite d'un visage, vaillante à mon invite, m'éveillant au virage, un vœu tu l'as fait vite. Un vœu de ta voix sage, un vœu, avant l'aveu que j'évite.
Alors, je crois que au cours de cette analyse, ce qui montre peut-être le caractère un peu différent de Lacan par rapport à ce qu'on pourrait appeler un analyste orthodoxe, il s'est cassé une jambe. Enfin bref, il a dû être immobilisé dans un hôpital et vous avez continué votre analyse en allant le voir à l'hôpital. Et là, les rôles étaient inversés, c'est-à-dire qu'il était allongé et vous étiez sur un fauteuil.
C'est un épisode que je raconte volontiers parce que, bon, j'étais pas le seul dans cette situation puisque c'est ce qu'il recevait et qui était tout à fait déterminant.
Déterminante.
Oui.
C'est-à-dire quoi, oui, vous avez compris quelque chose à travers...
Comment dirais-je cette... aujourd'hui, par rapport au dispositif, par rapport au cadre, il y avait quelque chose d'inversé, ce qui change, comme ça, très, très physiquement ou matériellement, la position de parole, et du coup, ça donne un autre espace, enfin, ça donne un autre point de vue. Bon, que c'est très difficile à décrire, si vous voulez, et en même temps très compréhensible. D'inverser les positions du fait des circonstances vous met tout à coup nécessairement vous fait parler autrement.
Est-ce que ça vous fait avancer à grand bond puisque votre analyse est terminée peu de temps après?
Sûrement, mais ce ne sont pas les seules raisons. Là, on retrouverait les raisons institutionnelles.
Oui.
Des raisons institutionnelles, puisque à ce moment-là, nous faisions tous, et moi à titre d'élève ou de candidat, partie de la Société psychanalytique de Paris, qui était donc la seule institution à ce moment-là. Et j'étais donc témoin et participant des conflits qui se sont développés à ce moment-là. Entre Lacan et les collègues de la Société psychanalytique de Paris, à l'occasion justement de la création de l'Institut, c'est-à-dire d'un organisme de formation et d'enseignement.
Jean-Houry ?
Quand il a créé, en juin 1964, une scission, ce qu'on appelle le « Je fonde ». Bon. Hein, c'est une séance qui s'est passée chez François Perrier à cette époque-là. Je lui ai écrit une lettre à ce moment-là. Non, en disant que je n'étais pas d'accord avec la distinction qu'il faisait dans son école entre psychanalyse pure, psychanalyse appliquée, et puis psychanalyse et sciences connexes. Moi, je ne suis pas du tout pour la pureté, au sens de la pureté, et surtout, je ne suis pas du tout pour la psychanalyse appliquée. Parce que ça, c'est extrêmement dangereux. Parce qu'il va se dessiner des gens qui se diront des purs. Et puis les pauvres connards qui seront dans l'application. Moi, j'estime que la théorie, c'est la praxis même, et c'est au niveau même de ce que vous appelez appliqué. Et c'est à partir de là qu'il y aura de la pureté, si on veut. Hein. Ça, je l'avais bien écrit. Et je pense toujours que j'avais raison.
Parce que,
il a dit qu'il était coincé. Hein. Et à ce moment-là, j'avais même fait la démarche de vouloir, avec tout le GTPsy, en 64, il y avait Toscaïès, Chéniaud, etc. On a fait une démarche, on est allé chez lui, hein, en septembre 64. On est allé chez lui, au 3 rue de Lille. Hein,
5.
Au 3. Chez lui, c'était au 3. Hein. Au 5, on avait l'analyse, mais chez lui, c'était tout à fait en haut, là, au 3 rue de Lille. On s'est installé là pour discuter en disant ce que je proposais, c'était que tout le j'étais psy fasse partie de l'école. De l'école. À condition que ça ne soit pas appliqué. Hein, qu'il change un peu la formule. Et alors là, à ce moment-là, j'ai vraiment même fait des tracts, même dans les mois qui ont suivi, pour distribuer dans les premières. Mais ça a été mal accepté. Hein. Pourtant, il était tout disposé. C'est dans cette année-là, en 64, je pourrais finir là-dessus pour donner une image, que Bonafé, qui était encore Perret-Vauclus, c'était son ancien copain Bonafé, hein, vieux camarade, qui n'avait pas vu depuis très très longtemps pour des raisons variables, politiques et autres.
Lucien Bonafé.
Lucien Bonafé, qui était encore médecin-chef à Perret-Vauclus. Et alors, au mois de décembre 64, Bonafé m'avait téléphoné en disant, tiens, est-ce que tu voudrais venir, on va faire une journée sur la psychothérapie institutionnelle ou n'importe quoi, mais sur la hiérarchie, etc. Mais je dis, ben, d'accord, mais ça serait bien si je pouvais amener Lacan pour parler avec les infirmiers. Alors Bonafé dit, ben, c'est, j'y crois pas, mais essaye. Je l'ai dit à Lacan. Et Lacan est venu tout l'après-midi à Perret-Vauclus. Alors c'était une retrouvaille avec Bonafé, hein. Il a passé son après-midi faire une table ronde avec des infirmiers. Et c'était quand même là quelque chose de très très important, hein, et qui donnait vraiment une des dimensions les moins connues, peut-être, de Lacan, et qui est les plus authentiques de son travail.
Il aimait les actrices. Il aimait les acteurs, mais il en était un lui-même. Il avait un talent de mise en scène que tous les gens qui sont allés à ses séminaires connaissent, ou à ses présentations de malades. Il savait que pour faire passer quelque chose, il faut le jouer. Et alors, il jouait aussi dans la vie courante, dans la vie quotidienne, et en particulier quand il vous emmenait au restaurant. C'était un véritable spectacle. Il y avait quelques restaurants de qualité qu'il affectionnait, où on allait de préférence, mais dès qu'il entrait, il faisait une entrée.
Il faisait un numéro.
Absolument. Et si ça n'était pas remarqué, il la recommençait, son entrée, jusqu'à ce que tous les dîners aient les yeux sur lui.
Il recommençait l'entrée.
Et oui, vraiment. Tout à fait. Il repartait vers la porte et il rentrait une seconde fois. Et alors sa façon de donner son manteau, de donner son écharpe en cachemire, de s'appuyer sur l'épaule du maître d'hôtel en lui disant « Cher !» avec un grand soupir que tout le monde connaît. « Mais où m'avez-vous mis ?» Alors, on lui avait donné évidemment sa table ou la meilleure table. « Ah, vous croyez qu'on sera bien là ? Ah ?» Puis elle se tournait vers moi. « Qu'en pensez-vous, ma chère ? Ça vous convient ? Parce que sinon, on s'en va, hein ?»
Profil perdu, Jacques Lacan. Une émission de Cécile Amcy, première partie, avec la participation de Madeleine Chapsal, Jean Houry, Catherine Millot, Costas Axelos, Jean-Pierre Faye, Philippe Solers, Serge Leclerc, et la voix de Jacques Lacan, enregistrée lors de la conférence à l'Université catholique de Louvain, le 13 octobre 1972. Groupe de réalisation, Jacques Taroni, Jean Frédérics, Myron Merson.
Cette émission a été diffusée le 21 février 1991 sur France Culture. Ainsi se terminent les nuits de France Culture. Alban Penaranda, Mathias Le Gargasson, Antoine Dulster, Hassan Mbechour, Virginie Le Duo. Vous pouvez réécouter et télécharger ces émissions à la page des nuits, sur le site et sur l'application Radio France. Bonne journée à tous, à l'écoute de France Culture.
Vous écoutez France Culture.
Pourquoi Elon Musk fascine-t-il autant ?
Guillaume Erner.
Est-il le héros d'une nouvelle ère ou l'illustration de ses contradictions ?
This is one of the great questions in physics and philosophy, is
Where are the aliens?
Nous plongeons dans la vie, les réussites et les controverses de celui qui veut nous emmener sur Mars et sera à la Maison Blanche.
Les visages de l'actualité. Elon Musk à retrouver sur franceculture.fr et l'application Radio France.
Ce samedi, dans Sens politique, je reçois la défenseur des droits Claire Hédon.
Astrid de Villene.
Elle reviendra sur le rapport annuel de son institution qui sort mercredi, sur son parcours et sur cette fonction constitutionnelle qu'elle occupe depuis 2020.
Sens politique, ce samedi à 12h45 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Et après les nuits viennent les matins, ceux du samedi 23 novembre. Bon réveil, bonjour à tous et à toutes à 8h40. Tout à l'heure, nous parlerons de la nouvelle pièce du plasticien et metteur en scène Théo Mercier. Une expérience faite d'émotions, de sensations où le spectateur est au cœur du dispositif. Une histoire d'amour qui naît dans un paradis de détritus. On